Oui, parce qu'en fait, c'est une table ronde qui était un peu compliquée en fonction de qui venait, qui ne venait pas. Ça a bougé en permanence. On a décidé avec Luce de la reformater. Donc en fait, on a essentiellement sur cette table ronde, outre une collègue directrice de centre hospitalier, enfin, les présentations plus complètement après, donc les représentants des usagers, les usagers eux-mêmes, et puis donc les avocats. Donc moi, ce que je vous propose, je l'évoquais avec Claude Fickenstein tout à l'heure, c'est d'être dans la continuité avant l'intervention de Madame Hazan, de l'échange qu'on a eu ce matin avec Denis Robillard après la présentation de François Courteau, et de reprendre en quelque sorte le débat là où on l'a laissé, et puis on l'élargira autant que de besoin, ça c'est vous qui nous le direz. Donc on l'a laissé sur cette question des évolutions possibles, probables, souhaitables, au regard de ce qu'on peut constater aujourd'hui de la pratique des tribunaux, de la position de l'institution judiciaire, certes elle n'est pas présente, de la position des avocats par rapport à leurs clients et à l'institution judiciaire elle-même, et de voir si aujourd'hui, au regard des pratiques et de ce qui s'est développé autour de la loi de 2011 et surtout 2013, et sans revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a des attentes nouvelles? Est-ce qu'il y a des évolutions probables? Est-ce qu'il y a des évolutions souhaitables? Est-ce que le régime, on voudrait le porter jusqu'au bout d'une certaine logique? On l'a évoqué aussi ce matin. Bon, je ne vais pas développer plus, mais on va plutôt, effectivement, à partir de là, être sur un échange qu'on voudrait aussi la salle avoir avec vous, les usagers, ceux qui les défendent ou qui les représentent, la position un peu au milieu des établissements, parce qu'on est, on l'a vu ce matin, à gérer aussi certaines contradictions, vers où on va, vers où est-ce qu'on pourrait aller.
Bien. Et tout ça en 30 minutes. Voilà. Et donc, je vais demander aux personnes qui sont chargées des micros de se préparer pour aller les passer, puisque après une rapide interrogation de chacun d'entre vous sur le sujet du jour, on pourra faire un échange interactif avec la salle. Alors je voudrais vous présenter maître Julien Clayet-Marel, qui est avocat au barreau de Marseille. À ses côtés, maître Pierre Bourdesoul de Bellefeuille, qui est avocat au barreau de Versailles et qui est président de la commission hospitalisation d'office et vulnérabilité au syndicat des avocats de France. Nous avons Isabelle Doucelin, qui est directrice du centre hospitalier Jean-Pierre Falleret, de l'Institut Camille Miret. Et puis, bien évidemment, vous connaissez Claude Finkelstein, qui est président de la FNAPSI, et notre président du jour, Michel Girard, le vice-président de l'UNAFAM. Qui est-ce qui veut le premier éventuellement intervenir? Voilà, peu importe. Alors les avocats ont l'habitude de s'exprimer, on va peut-être commencer par eux. Ça va être plus simple. On fera les...
Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire une présentation très cursive parce que l'intérêt, c'est véritablement de dialoguer, je pense, entre nous, entre les différents acteurs des procédures. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit ce matin, mais simplement souligner qu'effectivement, et cela a été bien montré par Benoît Hérault notamment, il a employé le terme de tournant juridique. Donc je crois qu'effectivement aussi un changement de paradigme qui se traduit par un changement substantiel de perspective entre le rapport qu'entretient le MADAD avec l'institution soignante, ça c'est l'esprit de la loi, avec une amélioration des garanties de ses droits et libertés et une meilleure information. Ceci étant dit, on peut le résumer finalement en deux phrases, à mon sens, avec toutes les précautions d'usage, c'est que finalement la liberté est sans doute un bien suffisamment précieux pour être inscrit au fronton de nos lois, de notre constitution, mais surtout d'être effective. Effective au point que le fait d'en priver un individu, quelle qu'en soit la raison, thérapeutique et ou vertueuse, nécessite le contrôle d'un juge qui en est le garant. C'est le juge des libertés et de la détention, et c'est dans ce cadre, effectivement, que peut s'inscrire, donc on est bien dans notre thème, le dialogue entre les différents acteurs, à savoir l'avocat, le juge, le préfet, si dialogue il y a, le représentant, les familles, le directeur d'établissement. Donc ça, c'est pour, effectivement, le cadre. Alors, Je dois dire que on ne peut pas être exhaustif, je ne peux pas être exhaustif dans ma présentation, mais j'aborde d'emblée le rôle de l'avocat. Le rôle de l'avocat, il est évidemment essentiel, il est au centre des procédures, mais c'est un rôle qui n'est pas facile. Pas facile parce que, on va dire, les lois de 2011 modifiées en 2013 ont obligé les ordres à s'organiser. On parle, sans être péjoratif, d'un contentieux de masse. Et le rôle de l'avocat, évidemment, c'est en un temps finalement très limité à défendre quelqu'un, j'emploie volontairement ce terme de défense, mais dans un cadre très particulier, parce que c'est une personne qui, d'une part, n'a commis aucun délit, d'autre part, évidemment, n'est pas demanderesse à l'instance. Donc, dans ce contexte-là, nous assurons une double défense. La première, et je fais rapidement des raccourcis, mais vous pourrez nous poser les questions, c'est une défense dite de forme. Défense de forme, c'est-à-dire la vérification de la régularité formelle, finalement, de l'admission aux soins, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les jugements, à savoir, le cas échéant, soulever les exceptions de nullité. Et Dieu sait si il y a de nombreuses règles qui émaillent les différentes procédures existantes. D'autre part, une défense de fond, et s'agissant de la défense de fond, c'est peut-être sur ce point qu'il y a des éléments plus délicats à apprécier pour l'avocat, parce que au centre, finalement, de ces interrogations, lorsqu'il va rencontrer le patient-client, c'est évidemment la question du consentement. Et comment on va le définir, comment on va éventuellement le plaider devant le juge des libertés et de la détention. C'est-à-dire que, finalement, le rôle premier de l'avocat dans le cadre de la défense au fond, avant même d'aborder éventuellement la méconnaissance des droits du malade ou autre, c'est d'abord de prendre contact, de rencontrer une personne et d'essayer de comprendre une situation et, le cas échéant, de restituer au mieux le mieux possible, plus sincèrement possible, en tout cas en traduisant, on va dire, les éléments qu'on a pu réunir auprès du juge des libertés et de la détention. Évidemment, et je finis avec un dernier point, ça soulève les situations, on va dire, le contrôle systématique des mesures d'hospitalisation complète. En tant qu'elles sont privatives de liberté, et je souligne parce que c'est un point qui est important, évidemment, ça soulève des questions déontologiques, et le cas le plus, on va dire, peut-être le plus extrême, mais il y a une palette de situations diverses, c'est lorsque on trouve évidemment un dossier criblé de nullité dans la procédure et que le patient nous glisse au creux de l'oreille qu'il est bien à l'hôpital, voire pire, que s'il sort, il va peut-être y avoir des velléités de passage à l'acte violent, ou alors qu'il peut, il va attenter à ses jours. Comment trancher, comment apprécier ces situations au plan déontologique, c'est pas forcément évident, mais nous avons des réponses.
Merci pour cette mise en perspective vu donc de votre place d'avocat. Alors, Madame Finkenstein, vu du côté des patients.
Bah, écoutez, c'est la première fois que je n'aurais pas à poser la question directement à un avocat, parce qu'il a anticipé. Ma grande question, ça a toujours été, qu'est-ce que je ferais si j'étais avocat et que je me trouve face à un client-patient, vous avez dit un patient-client, moi je dis un client-patient, dont il me dit que s'il y a des vices de forme, évidemment, hein, on est sur ce sujet-là, et qui me dit que s'il sort, il va faire quelque chose qu'il vaudrait mieux qu'il reste à l'hôpital pour ne pas le faire. Et ça, c'est vraiment pour moi une question qui est une question d'éthique pour un avocat. Et je me suis toujours posé la question, et j'ai posé la question aux avocats que j'ai rencontrés, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là et comment vous pouvez agir à la fois déontologiquement et éthiquement. Je voudrais quand même rappeler que, si vous l'avez dit, que la loi de 2011-2013, bon, ben, ça a été une terrible avancée. Hein, l'intervention du juge qu'on réclamait depuis des années sans même savoir si on allait l'avoir un jour, ça a été grâce au CRPA et la question de constituer, voilà, parce que moi je suis pas très juridique pour ça, QPC, voilà. Eh bien, ça a été pour nous fondamental. À partir du moment où on prive une personne de liberté, il faut l'intervention de la société par le juge. Pour nous, c'était très clair.
J'ai l'impression qu'il y a eu un certain consensus là-dessus.
Oui. Enfin, écoutez, en tout cas, moi, ce que j'en tire, on le sait, c'est fait. Maintenant, tout le monde le fait. Il n'y a plus de problème. Ce que j'en tire, c'est que tout ce que j'entendais avant, autant du côté des juges que du côté des psychiatres ou des directeurs d'hôpitaux, c'est impossible à mettre en route. La loi est sortie, on a eu un an, mais ça a été fait. Alors, ça m'a donné courage pour me dire que, à partir du moment où il y a une loi, qu'elle doit être appliquée, on s'arrange pour s'organiser pour le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le registre actuel sur les contentions. Hein. C'est pas vieux, ça aussi, c'est extrêmement important, parce que décider qu'on va mettre une personne en contention ou en chambre d'isolement, ça se faisait quand même assez facilement dans certains endroits. Je ne dis pas dans vos hôpitaux, vous êtes là, vous êtes des gens bien. Dans les autres, allez, on va arranger tout le monde. Hein. Mais moi, je peux vous dire que j'ai un hôpital que je ne vais pas nommer parce qu'hier, je me suis fait accrocher parce que le directeur était dans la salle. Moi, je suis rentrée dans une USIP.
Donc, il n'est pas là aujourd'hui.
Oui, il n'est pas là aujourd'hui, alors. J'espère. Je suis rentrée dans une USIP qui n'est même pas nommée par la loi, l'USIP. Hein. Autant une chambre de contention, on le lit dans les trucs, mais USIP, on ne sait même pas ce que c'est. Unité de soins intensifs en psychiatrie. Où, systématiquement, la personne arrivait, on la mettait directement en chambre d'isolement. Il y avait très peu de chambres normales et que des chambres d'isolement. On la mettait directement dans la chambre d'isolement en attendant pour voir. Vous voyez, c'est des pratiques comme ça que moi je vois quand je me déplace.
Et vous dites que le registre va éviter ça ?
Alors, le registre, à partir du moment où il faut écrire dans un registre, vous voyez, déjà, c'est moins facile d'attacher quelqu'un. Et puis, parce qu'il faut voir les conditions dans lesquelles on attache. Hein. C'est tout souvent, la personne, on prend pas le temps. Peut-être parce qu'il n'y a pas de moyens, peut-être parce que ce jour-là, deux infirmiers manquent, je n'accuse pas. Mais on se trouve à un moment où, allez, on va à la facilité. Là, le registre va empêcher cette facilité, au moins dans l'esprit des personnes qui soignent. Et puis, il y aura quand même un contrôle. Moi, je suis désolée, c'est le contrôle. Il y a quand même des endroits où il n'y a pas de chambre d'isolement. Hein. Donc, il faut quand même réfléchir. Je voudrais un changement de culture, un changement d'organisation. Et le changement de culture vient au changement d'organisation. Et le changement d'organisation vient quand même, malheureusement, dans notre pays, aux lois.
Bien, Monsieur Girard, les familles.
Oui, en tant que famille, nous, l'hospitalisation sans consentement est quand même un drame, surtout quand on vous appelle à 8h du matin pour vous dire « venez signer l'hospitalisation parce que votre fils nous a été amené par la police cette nuit ». Donc, déjà, la maladie s'en est un, l'hospitalisation sans consentement est un autre. Mais là, j'allais dire, nous sommes en régularisation. Le pire, c'est quand on a une dégradation de plus en plus grande qui aboutit à une crise telle qu'il n'y a pas autre chose que de l'hospitalisation sans consentement, et de savoir qu'il y a derrière l'intervention du juge et de l'avocat qui vont tout faire, nous avons le sentiment, pour qu'il soit
pour éviter l'hospitalisation.
Libéré, et nous, on a fait tout ce qu'on a pu pour qu'il soit soigné. Donc là, c'est une chose très difficile. Ça a fait d'énormes progrès. Il faut dire, une formation à la fois des magistrats et des avocats. J'ai bien entendu mettre ce que vous avez dit, j'ai beaucoup apprécié. Parce que dans les contacts que j'ai eus avec les avocats, je leur disais, écoutez, c'est pas par plaisir qu'on l'a fait rentrer, hein, je peux vous dire, mais ça a été difficile. Qu'est-ce qu'on souffrait dans toute la famille et tout le monde. Alors j'ai eu un bâtonnier qui m'a dit, écoutez, oui, dans ces cas-là, bon, on va contrôler la régularité, ce qui doit être absolument fait. Mais quand nous plaidons vis-à-vis du magistrat, nous disons « Monsieur Untel me demande ». C'est entendu, ce n'est pas moi qui le demande. Parce que dans mon tréfonds, j'ai compris quelle était la situation, mais c'est mon client, et donc je dois être porteur de sa parole. Et ça, pour moi, c'est une dimension très importante dans toutes ces procédures qui ont été bien évoquées là aussi tout à l'heure, hein. Pour moi, c'est le point essentiel, c'est que les familles, quand elles ont réussi à aller au-delà de ce déni, c'est qu'on débobine pas tout ce qu'elles ont eu tellement de mal à faire, parce que après notre proche, il nous remercie. Il y a des cas où ça peut quelquefois être tendu, hein, mais en majorité des cas, il nous remercie de ce qu'on a fait.
Il n'empêche que je crois que vous disiez par ailleurs que quelquefois vous préférez malgré tout, c'est vous qui demandez à ce que la maman de votre famille soit hospitalisée, là je parle des familles d'une manière générale bien évidemment, et que malgré tout vous préférez que ce soit le directeur d'établissement, à défaut de juge des libertés, qui prenne la décision, effectivement,
oui. Que question.
Les familles
bonne
soient
question.
Protégées en quelque sorte.
Bonne question. Il a été évoqué l'augmentation importante d'un certain nombre d'hospitalisations, et en particulier de cette troisième forme de demande d'hospitalisation qui est à la demande du directeur. Il faut être clair, c'est très souvent pour nous préserver, nous, familles, de ne pas avoir à être le tiers demandeur, de façon à préserver le lien familial. Parce que la première fois que j'ai signé pour notre fils, eh ben, j'ai demandé ce qu'il ne le sache pas. C'est un vœu pieux, parce que dans la procédure, tout est dit. Alors.
Bien, laissons maintenant la parole aux établissements. Isabelle Doucelin.
Voilà, je pense que c'est important ce que vous dites aujourd'hui. Alors le péril imminent, effectivement, il a été mis en place pour deux raisons. Éviter de recourir au préfet quand on n'avait pas d'autre solution parce qu'on n'avait pas de tiers. Et puis effectivement aussi pour protéger les familles. Aujourd'hui, ce qu'on constate quand même, et je pense que là, je parle d'une manière assez générale et on en a déjà parlé, c'est qu'effectivement, les urgentistes, ou une fois que le patient passe par le service des urgences, eh bien, on ne contacte pas parfois la famille et on va très vite, on veut dégager le cas psychiatrique et aller hop, péril imminent dans l'ambulance et c'est parti. Et ça, effectivement, c'est quand même un bémol et c'est quelque chose contre lequel on doit lutter. Alors aujourd'hui, j'entends changement d'organisation. Oui, on a encore beaucoup de travail, beaucoup de progrès à faire. Et notamment en termes de dialogue. Alors, j'entends le maître et je suis ravie d'entendre.
Merci de. Pardon. Voilà, d'être en face du micro.
Mais moi, j'aimerais voir les avocats en audience foraine. Alors, je suis peut-être pas la seule concernée, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu le passage des contrôleurs des lieux de privation de liberté qui nous ont fait aussi la remarque, qui l'ont remonté à l'ARS, qui ont écrit au bâtonnier, mais pour autant, ça bouge toujours pas. Et c'est vrai que c'est important aussi que l'avocat, on ne le voit pas qu'en visioconférence pour le patient et que tout ce que vous avez énoncé, bah, ça puisse effectivement se concrétiser. Mais peut-être qu'avec le temps, ça va s'améliorer. En tout cas, moi, j'essaie d'y travailler. J'organise une fois par an une réunion de dialogue justement entre tous les acteurs qui sont autour de la table, autour de la prise en charge du patient, notamment dans le cadre des audiences. Et j'espère et j'ose espérer que ça va s'améliorer. Voilà. Après, voilà, on a effectivement encore beaucoup de travail autour de ça. On parle aussi de remonter les observations écrites des patients au juge. Je pense que ça existe peu dans nos recueils ou dans nos formulaires aujourd'hui destinés aux patients pendant l'hospitalisation. Ça fait partie des choses qui ont été soulevées par la jurisprudence récente.
Et de l'autre côté de la barrière, il y a donc le juge. Et, oui. Et vous prenez une formation des juges aussi.
Alors, ça existe déjà, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le dialogue médecin-juge, il n'est pas simple non plus. Le contrôleur des lieux de privation de liberté nous l'a également fait remarquer. Il nous a demandé d'encourager, nous, directeurs, des réunions médecin-juge. Alors, pas de collusion, hein, le but, c'est pas ça. Le but, c'est de parler un même langage, de travailler sur la même... Enfin, de s'entendre, en tout cas, et de véritablement œuvrer dans la même direction. Mais effectivement, on se rencontre en faisant rencontrer les psychiatres et les juges que le vocabulaire étant différent, il est effectivement interprété de manière différente. Et c'est vrai que je crois qu'il faut véritablement mettre en place des formations spécifiques entre médecins et juges pour faire avancer aussi ce dialogue.
Il y avait d'autres remarques éventuellement générales ou pas ?
Alors après, je voulais aussi parler des certificats médicaux. Il y a de plus en plus de jurisprudence qui sort et qui nous alerte sur le fait que les certificats médicaux doivent être circonstanciés. Alors sur l'ordre public, sur la gravité des troubles, sur la dangerosité. Pour autant, aujourd'hui, quel est le rôle du directeur dans cette dynamique ? Est-ce qu'on doit intervenir ou pas ? Aujourd'hui, les certificats d'admission initiale qui nous arrivent de l'extérieur sont souvent un peu légers. C'est vrai que si un avocat se penche sur certains dossiers, comme vous le dites, hein, des exceptions de nullité, il y en a effectivement forcément. Donc l'HAS devait fournir aussi un protocole pour nous aider à travailler ça. Aujourd'hui, ça ne devrait pas tarder à sortir. Voilà, moi, je suis inquiète sur la rédaction des certificats qui, peut-être ne correspond pas forcément à ce que le législateur attend. Et voilà.
Bon, on traitera peut-être d'autres questions, parce que je sais que vous en avez beaucoup. Hein. Vous m'aviez envoyé un petit truc et c'était intéressant. Maître Pierre Bourdoussoul, de Bellefeuille, votre regard.
Je vais juste donner quelques éléments. Je ne suis pas sûr d'avoir la solution. D'abord, je vous remercie d'être là et je crois qu'il a été évoqué la possibilité d'échanger. J'ai l'intime conviction que les avocats, le monde judiciaire, sont rentrés avec la délicatesse d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Dans les hôpitaux, où on vous a imposé des structures, des salles d'audience, qui d'ailleurs étaient des normes du ministère de l'Action sociale, etc., et pas du tout du ministère de la Justice. Donc on a tout fait de traviole dans ce dossier. Et je vais vous citer... Ce ne sont pas les normes du ministère de la Justice qui ont été négatives. La circulaire, je peux vous la donner, n'émane pas du ministère de la Justice.
Ah oui. Mais...
Nous sommes bien d'accord et nous parlons de la même chose.
Mais que la justice...
je vais donc, vous citer... nous constatons un désaccord. Voilà.
J'ai le texte. Ce ton, en tout cas, continuons, deux mondes avec deux univers. Il y a quelqu'un qui n'a pas été nommé tout à l'heure et qui pourtant est intervenant. Et qui pourtant est intervenant dans la loi et qui a des pouvoirs. Et je m'attendais à ce que cette personne, le représentant de la loi, celui qui doit garantir l'application de la loi et de la société, soit présent. Or, vous avez dû constater dans vos salles d'audience que très régulièrement, le parquet, pour ne pas le nommer, le procureur de la République, est inexistant. À tel point que j'ai vu dans des salles d'audience, on n'avait même pas enlevé le blister du siège du parquet qu'on avait laissé dans un coin, et pendant 15 jours, 3 semaines, le fauteuil est resté dans un coin et resté inoccupé. Vous voyez apparaître le parquet seulement au niveau de l'appel quand il y a des appels et quand il y a des parquetiers pour le faire. Donc peut-être il y a des questions à poser à l'avocat ou à tous les intervenants, mais que fait le parquet ? Nadal, un excellent parquetier qui avait été à la Cour de cassation, qui était chargé d'un rapport dans le cadre de la justice du XXIe siècle, avait souhaité cette intervention du parquet. Et je pensais que le parquet prendrait position. Manque de temps, manque de moyens, peut-être pas manque de formation, puisque l'Union des... Enfin, il y a des formations qui sont assurées par l'ENM. Bref, le parquet est absent. C'est un grand dommage. Nous, avocats, on ne ferait pas notre travail si le parquet arrivait et faisait son travail. En tout cas, on ne le ferait pas de la même façon. Deuxième petite observation, à part le rôle du parquet, je crois que dans ce trouble de la survenance du droit et de la médecine, où la loi est venue dire que le droit l'emportait sur la médecine, la loi clairement le dit. Quand il y a une clause de nullité, effectivement, cette clause de nullité l'emporte, quel que soit le point de vue médical. Dans ce grand trouble qui est jeté, il faut essayer de garder des idées simples. À titre personnel, je me cramponne sur des idées simples. Que quand les vaches sont bien gardées, eh bien, tout va bien. Autrement dit, que le directeur fasse son travail, que le parquet fasse son travail, que l'avocat fasse son travail, que le médecin fasse son travail. Sinon, on ne s'y retrouve plus. J'entends bien qu'il est sollicité de l'avocat, que de temps en temps, il ne fasse pas son travail. Ne nous trompons pas. Un avocat, il doit faire un travail d'avocat, sinon la société est peut-être un peu moins équilibrée. On ne va pas demander à un médecin d'un peu moins faire son travail parce qu'il connaît ou parce que... Voilà. Personnel, j'essaye d'avoir cette idée simple, que les familles jouent leur travail et demandent des explications à l'avocat. Bref, que tout le monde soit dans sa légitimité et que, effectivement, le dernier qui prend la parole, qui décide, c'est pas l'avocat. Donc, si tout le monde fait son travail, on aboutit à un produit fini avec l'espoir que ce produit fini, qui s'appelle décision, qui s'appelle jugement, qui s'appelle arrêt, soit satisfaisant. Bon, ça, c'est un espoir sur lequel repose notre société, que le dernier mot soit à la loi. Alors, j'essaye d'avoir ces idées simples. Ça ne m'empêche pas également d'avoir des idées prospectives. J'appartiens effectivement à un syndicat et on a changé le titre de notre commission. Il n'est plus seulement la commission à chaud, qui est la commission hospitalisation d'office aux contraintes et vulnérabilité. Ce qu'on a constaté en tant qu'avocat, c'est qu'on nous fait intervenir pendant une période de temps extrêmement limitée. Or, nous intervenons sur un individu qui a peut-être tissé des liens avec des psychiatres, qui en tout cas a une famille, qui vit dans un environnement, et on ne sait rien de lui. On ne sait pas s'il a vraiment un tuteur ou un curateur, une assistante sociale, s'il aura un travail, si on le libère, ce qu'il devient. Donc c'est très bien d'avoir des réticences, mais la vraie question étant peut-être de traiter l'individu dans sa globalité. Personnel, nous sommes entre nous, j'ai l'impression d'être une espèce de marionnette en tant qu'avocat. On me fait intervenir, vous mettez votre robe, là vous parlez pendant un quart d'heure et vous disparaissez. C'est pas comme ça que je conçois ma relation avec un justiciable patient en temps ordinaire. Je sais d'où il vient et j'essaye de savoir où il va. Et voilà les petites réflexions que j'avais et prospectives dans ce dossier avec l'espoir qu'il y ait une globalisation du traitement de l'individu à l'avenir.
Réflexions qui ont fait réagir visiblement la salle et qui vont peut-être continuer à faire réagir la salle. Tout d'abord, Madame Hazan.
Oui, merci. Moi, je voulais poser deux questions aux avocats, parce qu'en tant que contrôleur général des lieux de privation de liberté, visitant évidemment beaucoup d'établissements de santé mentale, j'ai repéré deux dysfonctionnements et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Le premier, c'est qu'il y a certains barreaux, en province en général, en région, pardon, en général, qui décident de ne pas assurer cette assistance du fait que ils ne sont pas assez payés, que les vacations ne sont pas assez payées, et que parfois l'hôpital est dans le lieu de la ville, donc là ils y vont, mais si c'est à 50 ou 60 km pour un plus petit hôpital, avec évidemment moins de cas dans une demi-journée, ils décident, et ça il y a des motions de barreaux qui décident de ne pas y aller. Il y a des petits tribunaux, il y en a un qui, les avocats manifestement, je ne sais pas où c'en est, mais c'était le cas encore il y a quelques mois, font la grève de l'assistance devant le JLD pour les patients admis sous contrainte. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Et le deuxième point, moi, qui me préoccupe, c'est que l'office de l'avocat est obligatoire dans cette situation. Les patients qui ne veulent pas d'avocat, après tout, c'est leur droit, sont quand même obligés de payer l'avocat. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, je pense que là, il y a quelque chose quand même à revoir avec le ministère de la Justice.
Alors, le premier cas, les avocats qui ne veulent pas.
Il y en a quand même un certain nombre de barreaux comme ça.
Je ne représente pas, et je ne pense pas que mon confrère non plus, on représente les institutions nationales ordinales. Effectivement, c'est payé. Alors, d'abord, en principe, on arrive à insérer l'intervention de l'avocat, ça va devenir un peu technique, dans ce qu'on appelle le protocole article 91 avec les tribunaux de grande instance. C'est-à-dire qu'on arrive à être indemnisé quasiment automatiquement. La défense pénale, soit vous avez un avocat choisi, soit parce que vous avez été arrêté la veille en garde à vue, vous ne trimballez pas avec vos feuilles de paye, avec vos déclarations d'impôts, il y a un système automatique d'indemnisation. Donc on essaye de faire rentrer les interventions à chaud, hospitalisation d'office, dans ce système d'indemnisation. Tous les tribunaux n'ont pas passé avec tous les barreaux des accords. Donc il peut arriver qu'il y ait des juridictions où il n'y ait pas ce protocole article 91 de la loi de 91 sur l'aide juridictionnelle. Et donc il y a des avocats qui ne seront même pas assurés de toucher la somme mirobolante de 100 euros. 100 euros, ça peut apparaître une somme importante. Je sais que mon cabinet a un coût horaire de cet ordre-là. Et bien évidemment, je passe plus d'une heure. C'est-à-dire que tous les dossiers d'achat que j'ai à titre personnel sont tous déficitaires. Et nous acceptons, parce que nous avons prêté un serment d'humanité, et patati et patata, a priori, tous mes confrères qui interviennent sur le barreau de Versailles savent que tous leurs dossiers sont déficitaires. Et quand vous avez 6, 7 dossiers, 6 fois, 7 fois, et donc vous perdez quasiment l'équivalent de la somme que vous engrangez. Donc je ne peux pas répondre pour tous les confrères.
Mais c'est donc probablement une question d'argent. C'est ça que vous répondez, en fait.
Je réponds qu'il y a beaucoup de confrères qui interviennent en étant déficitaire. Et je comprendrais qu'il y a veuillent pas être déficitaires.
Par rapport à ceux qui n'interviennent pas du tout.
Ça a été doublé récemment.
Oui, on est passé de 23 à 32. Ce n'est pas franchement un doublement pour ce qui concerne la chose. Il y a un système de modération en fonction de la province.
J'ai compris qu'un avocat qui était rémunéré à concurrence de 100 euros jusqu'à très récemment, l'est maintenant à concurrence de 200.
Je crois que c'est 100. Pour moi, c'est passé à 123. Mais
bien. Deuxième question, c'était sur le fait que l'argent des avocats, que les avocats perçoivent de l'argent pour des choses qu'ils ne font pas, puisque ça n'a pas été retenu par le client patient.
Alors, vous avez donc ce système de rémunération automatique de l'avocat quand un barreau est bien en coordination avec son tribunal de grande instance, en coordination avec le ministère de la Justice. Ceci étant, ça reste de l'argent public. Donc je conçois parfaitement. Et oui, ce sont notre argent qui alimente l'aide juridictionnelle qui permet l'indemnisation de l'avocat. Donc je comprends qu'il y ait des avocats, et j'en fais partie, qui, quand ils constatent qu'il a un justiciable qui est fortuné, avec un tuteur qui lui garantit d'avoir les photocopies, des feuilles des avis d'imposition, eh bien, fasse une demande de rémunération pour éviter que l'argent public aille vers quelqu'un qui n'a pas besoin de cette assistance publique.
D'accord, mais quand le patient refuse l'avocat et qu'il est un peu au-dessus de l'aide juridictionnelle, du coup, il est obligé de payer lui-même les frais de l'avocat alors qu'il a refusé l'assistance d'un avocat. Alors,
c'est une double application de la loi. Ouais. Première application de la loi PSI 2011-2013, à savoir que vous avez des cas où l'avocat assiste, quand la personne est là, ou représente, c'est-à-dire littéralement prend la place de la personne et peut tout dire en son nom. Et c'est la loi qui vient dire que l'avocat représente, dans certaines hypothèses, le patient.
Je pense qu'on peut passer à d'autres questions.
Si vous permettez, j'avais une autre question qui est plutôt au directeur d'établissement. Nous, on voit régulièrement, par exemple, dans le cadre de placement sous contrainte qui fait l'objet d'une main levée parce qu'a été soulevé des irrégularités sur le certificat médical. Donc, c'est levé, mais très vite, si le patient est considéré comme dangereux, il est tout de suite replacé sans consentement, sur péril imminent, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que quelque part, ça interroge sur l'intérêt de la loi. Si le placement est levé pour nullité, mais que le patient ne sort pas parce qu'on le considère quand même comme dangereux, je peux comprendre le raisonnement de l'hôpital qui n'a pas envie de laisser partir un patient dangereux. Mais à ce moment-là, ça interroge quand même sur le bien fondé de cette loi.
Alors d'abord, souvent, quand il y a une main levée, il y a aussi la possibilité pour le juge de laisser le psychiatre prendre la décision de mettre en place un programme de soins dans les 24 heures. C'est quand même bien souvent, je crois, ce qui est fait. Voilà. Après, oui, la loi permet, mais c'est la loi qui le permet, de remettre en place une mesure pour sauvegarder la personne parce qu'il y a un danger, soit pour elle, soit éventuellement pour autrui. Et dans ce cas-là, c'est une autre procédure puisque c'est le préfet. Mais c'est la loi qui le prévoit.
Maître
Donc,
Clayet,
on ne fait que respecter la loi.
Maître Clayet-Marel.
Oui, je me permets juste de compléter ce que vous avez dit. Et d'ailleurs, ça rejoint on va dire notre question initiale, à savoir que d'abord, il revient au juge, effectivement, pour savoir si des fois on hésiterait à demander une main levée ou non en fonction des situations. Déjà, et cela a été bien rappelé, le juge peut ordonner uniquement, effectivement, la fin de la privation de liberté, mais il peut effectivement différer cette mesure de main levée de 24 heures, le temps de mettre en place, ce que vous avez dit, un programme de soins ambulatoire. Le cas échéant, ce programme de soins, qui n'est d'ailleurs, je pense, pas encadré au plan de la loi par des critères précis, il n'est pas encadré, mais toujours est-il que s'il n'est pas respecté, effectivement, il y a une possibilité de réintégration. Mais il me semble que ce matin, Maître Denis Robillard, mais qui avait sa robe de député, nous rappelait que le fait de ne pas respecter le programme de soins n'est pas in se, en soi, par nature, un motif suffisant pour la réintégration. En tout état de cause, il va y avoir à nouveau saisine du JLD, et le cas échéant, il faudra motivé, circonstancié, un peu plus que simplement le non-respect du programme de soins. Et je me permets d'aller un petit peu plus loin en disant que si le programme de soins n'a pas été respecté dans le cadre, par exemple, d'une personne qui, tout simplement, a disparu de la circulation et qu'on ordonne la réintégration, comment on va motiver le certificat médical et comment on va le circonstancier? Vraie question.
Bien. D'autres questions dans la salle, dans le fond d'abord. Monsieur qui a le micro là-bas.
Oui, Jacques Bérard, Charcot. Alors, où j'ai pas étudié ou visé mes fonds de culotte sur les mêmes bancs que Maître Bordesoul, où je suis Alzheimer précoce, mais c'est pas très grave parce que j'ai deux accueils du jour Alzheimer dans mon hosto. Moi, j'avais compris. Je suis près de Versailles, donc je suis sur le barreau de Versailles. Au barreau de Versailles, il y a eu effectivement, après 2011, des formations croisées magistrats, psychiatres, directeurs d'hôpitaux. Enfin, on était assez peu directeurs d'hôpitaux, mais il y avait beaucoup de psychiatres et magistrats qui étaient intéressantes. Curieusement, après la loi de 2013, ces formations ont disparu. Alors, je laisse ça à la réflexion de la salle. Est-ce que la virgule, le défaut de virgule ou le manque de tampon du directeur est devenu un nouveau marché pour certains types d'avocats? Je pose quand même clairement la question. Deuxième chose, de mémoire, quand il y a eu l'histoire des salles d'audience, donc ça c'était 2011 ou 2013, je ne sais plus. C'est vrai qu'il y a eu un flou artistique sur les cahiers des charges. Moi, personnellement, j'ai fait une salle d'audience nickel chrome, parce que je suis probablement déformé par mon passé villejuifois. J'ai fait beaucoup de médico-judiciaire. On en a fait un peu trop. On a mis des barres, etc., comme si on était dans un tribunal. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Maître Bordesoul sur ce sujet-là, voilà, sur le sujet du cahier des charges des salles d'audience. Troisième chose, j'ai assisté personnellement, alors je ne sais pas quelle est l'attitude des collègues, je suis allé au premier appel, moi, parce que j'ai le premier patient qui a fait appel, je suis allé à la cour d'appel de Versailles, Et alors là, c'était du grand surréalisme, parce que là où je rejoins effectivement Maître Bordesoul, c'est que c'était à l'époque où on passait du contentieux civil au contentieux, enfin du pénal au civil. Donc on s'est retrouvé avec des magistrats civils qui n'y connaissent strictement rien aux questions de privation de liberté et qui étaient complètement désarçonnés. Alors je ne sais pas si ça a évolué depuis. Alors je ne veux pas pénaliser la psychiatrie, ça serait une erreur, mais c'est l'hospitalisation sous contrainte sans forcément, qu'on le veuille ou non, c'est de la privation de liberté. Donc faire juger de la privation de liberté par des magistrats du civil, alors ils y sont peut-être mis, ça pose quand même un certain nombre de questions parce qu'ils n'y connaissent strictement rien. Et alors la cerise sur le gâteau, c'est que j'avais affaire à une avocate. C'était une étudiante chinoise qui mettait un peu le boxon dans un crous. Et l'avocate était persuadée, mais alors vraiment persuadée, hein, qu'on voulait l'empêcher de faire des études. Alors, le problème n'était pas du tout ça. On avait eu 10 sollicitations au moins du président de l'université qui disait on ne peut pas laisser cette personne dans le crous. C'est un vrai. Il y a des gros problèmes de promiscuité, etc. Mais c'était, je veux dire, cette audience était surréaliste. Ça m'a complètement dégoûté, bien sûr, de continuer à aller aux appels. Et de toute façon, dans les hôpitaux d'une certaine taille, on n'a pas le temps matériel d'aller à tous les appels. Mais franchement, on est vraiment dans un gros gloubi-boulga juridique avec beaucoup d'hypocrisie. Je voulais dire aussi qu'il y avait un...
Ça va être suffisant pour l'instant.
Oui, dernière chose, il y a un patient versaillais qui a quand même coûté 5... qui a eu 5 000 euros de frais d'avocat et qui n'avait pas forcément les moyens. Alors, pas chez moi, hein. Pas creuser le truc.
Merci.
Mais voilà.
Merci pour votre témoignage qui, a priori, n'appelle pas de commentaires, si. De Pascal Mariotti.
Le temps qu'on passe le micro à M. Litton, moi, je voulais juste faire une remarque au passage. C'est qu'en tant que directeur pour les SDT, on n'est pas des machines à signer non plus. Hein. Dans un établissement marqué par l'affaire Meunier de 2008 qui vient de passer devant les tribunaux, on a dû, d'ailleurs, dès la phase d'intérim, améliorer notablement les certificats, y compris d'ailleurs pendant plusieurs années des certificats visés par les pairs, notamment avant de partir en préfecture. Preuve qu'on peut aussi mettre en place des choses dans les établissements. Pour autant, je constate qu'arrivant d'autres établissements qui n'ont pas connu, malheureusement, ou heureusement pour eux, je ne sais pas comment il faut dire, on va dire heureusement, mais qui, du point de vue certificat, n'ont pas connu ces obligations et ces contraintes-là, il m'arrive de refuser d'admettre en soins sans consentement, parce que les certificats ne sont pas circonstanciés, en insistant pour que le patient soit informé qu'il est hospitalisé en soins libres. Je le répète, on n'est pas des machines à signer et on garde une liberté d'appréciation pour ne pas faire n'importe quoi, et notamment pour ne pas arriver devant le JLD avec des défauts de motivation des certificats.
Allez, dernière intervention.
Oui, André Bitton. Oui, je tiens à souligner que je trouve que Maître Pierre Bordesoul a parfaitement raison. Les professions judiciaires dans cette affaire doivent faire leur travail. Si l'on veut que la situation s'améliore dans les institutions psychiatriques et dans les enceintes psychiatriques où il n'y a pas si longtemps le droit était étranger, logique de la loi de 1838, logique esquirolienne, si l'on veut que le droit rentre dans ces enceintes et que ces enceintes intègrent le droit commun, alors oui, en effet, il faut se servir des moyens de droit. On ne peut pas se permettre juridiquement de laisser perdurer des mesures qui sont illégales. Les mesures peuvent être très bien levées avec un effet différé, et par ailleurs, rien n'empêche l'administration de reprendre une nouvelle mesure, mais du moment que la mesure est régulière. Voilà.
Merci. Si vous souhaitez rajouter trois mots avant qu'on conclue cette table ronde, non. Merci infiniment d'y avoir participé avec beaucoup de passion. Maître Bordesoul.
Une forme de conclusion. On est en train de prendre nos marques. C'est une loi nouvelle, 2011-2013, c'est très récent. On est également en train de prendre nos marques par rapport au droit administratif, puisque le droit administratif aussi a joué. Pour l'instant, on n'a fait jouer que le civil. Et une petite observation. Je vous renvoie à prendre des avocats. Je parlais tout à l'heure du parquet qui était un grand absent. Il y a très peu d'hôpitaux qui prennent leur propre avocat, alors que ça pourrait être une réponse proportionnée au fait que les patients ont leur avocat du fait de la loi. Et bien ça, c'est votre liberté.
Merci encore une fois. On vous applaudit les uns les autres.